Voilà, toute l'équipe de Comaguerre est heureuse de vous accueillir à nouveau sur les ondes de Radio Galère. J'ai nommé Roselyne à la technique, bonjour.
Bonjour.
J'ai nommé Habib, voilà.
Bonjour.
Et Bernard, votre serviteur. Voilà, l'équipe est là, prête à affronter l'actualité internationale. Alors, l'affronter de la façon dont nous le faisons est un exercice sans risque physique. D'autres sont face à des affrontements où ils risquent leur peau. Ce n'est pas notre cas, mais nous risquons notre liberté de parole, notre liberté d'analyse, et nous sommes heureux de le faire sur les ondes de Radio Galère.
Bonjour Ibrahim Marie.
Voilà.
C'est une auditrice
tout
qui
à fait.
Nous écoute. Tout,
exactement,
tout le temps,
voilà, on en connaît. Ouais. Alors, on a un peu parlé de la Syrie avant que l'émission ne commence, et donc je vais rapidement passer sur la Syrie pour dire que une nouvelle fois, comme il en a hélas la très très mauvaise habitude, Netanyahou a fait bombarder la Syrie, ouais, hein, dans plusieurs endroits, Tartous, Homs, Hamas, etc.
Et bon, Safita. Et ça, voilà. Comme on l'appelle, Mossiaf.
Voilà. Non, alors, Mossiaf. Un certain nombre de projectiles ont été interceptés, pas tous, et donc il y a eu des morts et des blessés. C'est-à-dire que cela confirme que pour Israël, il n'y a pas de frontière à son État et qu'il intervient librement et militairement partout ailleurs dans la région, sauf sur les pays qui lui sont tellement attachés et tellement dépendants, je pense à la Jordanie, que là, évidemment, il n'intervient pas. Mais il interviendrait si nécessaire. Moment d'ailleurs qui, par rapport à la Jordanie, pourrait ne pas être si lointain que ça, puisqu'on a noté, cette dernière semaine, je crois, un premier incident frontalier à la frontière jordano-israélienne, c'est-à-dire qu'il y a eu une agression de Jordaniens sur la police ou les militaires israéliens qui étaient de l'autre côté de la frontière. Ça, c'est nouveau. Ça veut dire, et c'est l'occasion de rappeler, que la Jordanie, petit pays fabriqué artificiellement par l'Empire britannique, a à sa tête un monarque mis en place aussi par les Britanniques, et américain, fils d'une américaine et d'un donc monarque sur place. Et donc la majorité de la population jordanienne est née en Palestine, où maintenant les descendants de ceux qui sont venus au moment de la Nakba, etc. Bon. Donc il y a un lien quand même organique, physique, très très fort entre la grosse majorité de la population jordanienne et les autres Palestiniens. Et ça fait partie du rôle de cette monarchie donc pro-occidentale tenue à bout de bras financièrement par l'Occident parce qu'elle est très très pauvre, parce que c'est un pays quasi désertique où il n'y a pas beaucoup de ressources, etc. Elle est là pour tenir dans une espèce de camp de rétention le plus large possible à l'échelle de tout un pays, une masse de Palestiniens qui, si elle rentrait en Palestine, bouleverserait totalement l'équilibre démographique. Donc on a là 2 ou 3 millions de Palestiniens qui sont gelés pour la Palestine et qui sont gardés par un gardien en chef, le chef de la prison, s'appelle le roi de Jordanie. Ce n'est pas pour insulter le personnage, mais c'est pour expliquer sa fonction dans l'histoire contemporaine de l'impérialisme
étatique. Et il est marié avec une Palestinienne.
Voilà. Et il était en même temps fils de sa mère qui était une Américaine.
Ouais.
Voilà. Bon. Tout ça explique beaucoup de choses. Donc c'est bien de le rappeler parce qu'on en parle peu.
Qui est regrettable, c'est que les médias français n'en parlent pas du tout.
Ah non, jamais.
Pas
non,
grand-chose.
Non, non, jamais.
Dès qu'il y a un petit problème contre l'État israélien, on en parle énormément pendant des jours et des fois des semaines.
Voilà. Voilà. Habib, parle devant le micro, s'il te plaît.
D'accord.
Voilà. Et donc là, on a eu, et c'est pour ça que je me notais, un incident frontalier. C'est parce qu'il y a un Palestinien donc, de l'intérieur de la Jordanie qui a décidé de passer la frontière et qui s'en est pris à des soldats israéliens. Donc il a commencé à s'exprimer en tant que Palestinien et puis à montrer la souffrance de cette espèce d'enfermement qui dure maintenant depuis 1948 de tous ces Palestiniens ou des enfants de ces Palestiniens qui sont enfermés dans l'espèce de prison qu'est la Jordanie pour eux. Je ne dis pas que d'autres citoyens jordaniens ne sont pas libres, mais c'est un camp de Jordanie.
Comme il en existe au Liban, en Syrie.
Mais c'est un camp de grande taille, avec un monarque à sa tête. Ouais. Et il faut savoir, il faut le rappeler, qu'à un moment donné, Il a été considéré par les puissances impérialistes, donc par Israël, la Grande-Bretagne et les États-Unis, que le roi de Jordanie était en fait destiné, avait vocation à accueillir tous les Palestiniens qui auraient quitté le territoire israélien et que ce serait lui l'espèce de tuteur, de gérant de la Palestine. C'est bien ça qui est resté, puisqu'à un moment donné, c'était lui qui gouvernait Jérusalem-Est, etc. Il faut le rappeler, ce rôle historique.
Mais il s'est rendu compte qu'il s'est trompé politiquement.
Voilà. Et qu'effectivement, ça n'est pas les Palestiniens qui ont été victimes de ce traitement, donc de cet enfermement en Jordanie, savent très bien ce qui s'est passé et ne lui ont pas pardonné. Mais ce n'est pas à lui qu'ils en veulent, c'est à ceux qui l'ont mis et qui le maintiennent en place à coup de subventions, à coup d'armement militaire probablement donné plutôt qu'acheté.
D'ailleurs, il ne faut pas oublier de dire aussi qu'il a été à côté d'Israël quand l'Iran a voulu intervenir en Israël. Il ne faut pas oublier ça, que c'est de la Jordanie qu'ils ont arrêté pas mal des drones.
Tout à fait, oui. La Jordanie fait partie, ça correspond à l'accord politique avec les États-Unis, elle fait partie aussi du dispositif militaire états-unien, pas que israélien, états-unien, dans la région. À telle enseigne, et je finis là-dessus, qu'il y a... dans la frontière, disons, sud-est de la Syrie actuelle, une zone qu'on appelle la zone de Al-Tanf, qui est sur le territoire syrien et qui est en fait une zone occupée par l'armée américaine et qui est approvisionnée par le territoire jordanien. En fait, c'est une enclave jordanienne sur le territoire de la Syrie, une enclave militaire. C'est ça le rôle de la Jordanie qu'il ne faut jamais oublier de souligner. Bien, côté Gaza, hélas, on en est toujours à dire les mêmes choses toutes les semaines. C'est-à-dire qu'on ajoute encore 500, 700, 800 morts dans l'indifférence de plus en plus large, etc. Ça, c'est très, très clair. Et les choses ne bougent pas au plan international. Donc la souffrance des Gazaouis continue. Et puis maintenant, je répète ce qu'on avait dit déjà la semaine dernière, elle s'étend désormais à la Cisjordanie, où, en gros, la guerre contre les Palestiniens est lancée officiellement par le gouvernement israélien sur les Palestiniens de la Cisjordanie.
Donc, moi, j'ai dit le feu vert à Netanyahou est donné par les Américains. Et ça, c'est sûr, hein. C'est les Américains qui détiennent la clé.
La clé, ouais. Et le portefeuille.
Hein, et le portefeuille surtout.
Voilà, l'argent. Et donc, il faut simplement rappeler que la situation économique d'Israël ne lui permettrait pas de poursuivre cette guerre plus d'une seule journée. En même temps, il y a la fuite des capitaux. Il y avait beaucoup de capitaux qui s'étaient investis dans les technologies de pointe, technologies de l'informatique et tout, dans des entreprises de pointe israélo-américaines, on dit israéliennes, mais enfin israélo-américaines, qui sont en train de partir. Ouais. Et probablement, ils partent avec aussi les porteurs de capitaux et les cadres de haut niveau qui étaient à la tête de ces sociétés. C'est-à-dire, il y a une vraie hémorragie de l'argent israélien, de l'argent sioniste et du capital intellectuel sioniste. Mais ça, tant que les États-Unis arrivent à renflouer, c'est-à-dire à éviter que cette fuite, cette hémorragie soit trop importante, ça tient encore. On le sait, il y a toute une série d'indicateurs économiques qu'on voit maintenant. C'est clair que l'économie israélienne, si elle n'était pas soutenue, serait déjà effondrée. Car elle n'était pas faite pour soutenir une guerre de longue haleine. Elle était faite pour ce qu'elle fait encore en Syrie, c'est-à-dire bombarder, casser tout et s'en aller. Ça, elle sait le faire. Mais faire une guerre qui... en est à son 11e mois, rappelons-le, elle n'était pas du tout équipée pour le faire, ni elle, ni même ses soldats. Je rappelle que les conscrits israéliens sont à la tête de gros moyens militaires techniques, mais ils ne sont pas habitués à faire des campagnes de plusieurs mois, voire là, quasiment une année, parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Ils arrivent, ils bombardent, au sol, ils envoient un char, ils tuent un certain nombre de personnes, et ils se retirent. Ça s'arrête là.
Donc c'est... Oui, c'est détruit. Voilà. On le détruit.
Voilà. C'est une armée de coups de main, de coups de force, de bombardement. Ce n'est pas une armée en capacité de tenir une campagne. Donc, qui tient la campagne? C'est les États-Unis. C'est tout à fait.
Maintenant, c'est clair, c'est transparent.
Voilà, il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. C'était bien de le rappeler et de rappeler aussi que les États-Unis ne font pas que soutenir ça, puisque je dis un mot sur l'Ukraine au passage, et j'y reviendrai pas dans l'émission, je pense pas, il n'y a pas de quoi, mais simplement il y a une position très très importante qui a été prise officiellement par deux responsables, le responsable de la CIA et le responsable du MI6, donc les services de renseignement extérieur britanniques, consistant à dire que la guerre d'Ukraine doit continuer, et avouant, c'est dans leur texte, avouant que la seule façon de la continuer, ce n'est plus militairement, dans un affrontement militaire classique sur le terrain ukrainien qui est devenu impossible et qui est pratiquement à sa fin, c'est de pratiquer le terrorisme.
Le terrorisme,
c'est
exact.
C'est tout à fait clair. Hein. Ouais. Donc quand la CIA, les services de renseignement d'États-Unis et les services de renseignement britanniques disent « on va continuer à attaquer la Russie » puisqu'il ne s'agit même plus de l'Ukraine là, et c'est par les actions terroristes, ils annoncent encore du terrorisme. Donc les États-Unis et la Grande-Bretagne s'affichent à travers les chefs de leurs deux agences de renseignement comme les États les plus terroristes du monde. Alors, je pense que le message arrive 100% et reçu à Moscou, qui n'est pas surpris, mais c'est la première fois que c'est dit aussi clairement. C'est à la fois donc un aveu du fait que l'opération militaire classique sur le terrain est pratiquement au bout, et l'opération de Koursk a confirmé que l'armée ukrainienne en tant que telle n'était plus capable de faire quoi que ce soit de militaire. Et donc, il ne reste aux deux puissances impérialistes que la violence anonyme arbitraire du terrorisme. Alors quand on nous dit qu'il faut lutter contre le terrorisme, eh ben, nous savons sur qui taper et qui montrer du doigt. La lutte contre le terrorisme doit commencer aujourd'hui dans le monde entier contre les deux terroristes en chef, les États-Unis d'Amérique et le Royaume de Grande-Bretagne.
Ouais.
C'est eux.
C'est vrai.
C'est eux. Ouais. Il me plaît de dire ça, on est aujourd'hui le 10 septembre, donc à la veille du 11, on en parlera demain, à la veille du 11, où je reviens un peu sur le 11 septembre 2001, où on n'en parle plus, comme si la version officielle était classée. Bon, je rappelle quand même qu'il a fallu attendre cette année, 2024, pour que les pompiers de New York, qui est un corps officiel de l'État, reconnaissent que les tours du World Trade Center ont été dynamitées.
C'est vrai.
Hein ? Mais ça passe en 25e rubrique, on ne le dit plus, c'est-à-dire que la version « c'est Ben Laden, c'est les terroristes saoudiens » ne tient pas. Hein. Ce n'est pas les avions qui ont fait tomber les deux tours, c'est les tours étaient préparées, les explosifs étaient mis en place dans les jours précédents le 11 septembre, et les tours sont tombées comme des châteaux de cartes dans dans une démolition programmée. Mais ça fait partie, c'est une histoire qui a été totalement occultée. C'est fini, on n'en parle plus le 11 septembre. Il y aura peut-être un petit mot demain dans différentes émissions, mais pas dans ce sens-là. Pas dire que pour une majeure partie de l'opinion des États-Unis, c'est la version des pompiers qui est la bonne. Ça ne veut pas dire qu'ils désignent un coupable, mais ils disent que de toute façon, le dynamitage était prêt et il a eu lieu. Et ils l'ont vu de leurs yeux. Bon, c'est tout. Et pour nous, on dit que non, toute la version, on n'en parle même plus. On ne parle plus du 11 septembre. Ça n'existe plus le 11 septembre. Et ça a pourtant existé.
Le mensonge est distillé de toute façon.
Voilà, ça. Les 3000 morts et les familles des 3000 morts dans les deux tours, bon, ça n'a pas d'importance. Et puis, tous les morts d'Irak qui ont suivi, les morts d'Afghanistan, ne comptent pas.
Ils ont été dédommagés par l'Arabie Saoudite.
Oui, voilà. Alors, puisque j'en étais à parler du 11 septembre, je vous invite à prendre l'antenne demain soir à 20h pour notre émission mensuelle qui sera consacrée à une interview d'Annie Lacroiry que vous connaissez, qui est intervenue cette fois pour faire la préface d'un livre sur lequel je vais vous dire quelques mots. Et puis, bien sûr, vous écouterez cette émission demain soir. Il existait, dans la France de la Troisième République, un certain nombre de hauts fonctionnaires honnêtes qui servait la République et qui, en voyant arriver, alors il l'avait senti venir, et puis en voyant arriver la défaite et la capitulation de Pétain devant les Allemands, puis c'est bien une capitulation, on a dit c'est l'armistice. Il a capitulé, il a rendu le pouvoir, il a fermé l'Assemblée nationale, etc. Donc il y avait bien une capitulation. Et un certain nombre de hauts fonctionnaires qui ont refusé cette évolution de la France. Et il y a eu un diplomate, un monsieur qui s'appelle Raymond Brugère, diplomate de Oran, qui a été ambassadeur de France, etc., qui avait suivi l'évolution donc, de la situation internationale et la montée du Reich et de sa puissance et des ambitions nazies, qui a dit « Mais moi, je ne veux pas travailler pour un gouvernement qui travaille pour les nazis, qui s'est mis sous la conduite des nazis. » Et donc ce monsieur, le 17 juin 1940, donne sa démission. C'est-à-dire il est fonctionnaire, donc il sait qu'il va devoir se nourrir comme il pourra, et donc il refuse de collaborer avec l'ennemi. Et ce personnage donc, qui a écrit un livre qui s'appelle « Veni, Vidi, Vici » et voilà, est à l'honneur puisque ce livre va être réédité et que Annie Lacroix, à cette occasion, a fait une très très longue préface d'une trentaine de pages où elle explique l'évolution du régime français donc, qui tend la main petit à petit aux nazis, qui va s'accommoder, enfin du régime politique, qui va s'accommoder de la présence et de la domination nazie. Et puis quelques îlots de résistance, alors une résistance politique du côté des communistes qui vont le payer très très cher, et puis un certain nombre de membres de la classe dirigeante, c'est le cas de M. Brugère, c'est le cas de quelques fonctionnaires de haut niveau, je crois qu'il y a un magistrat aussi qui a refusé de travailler pour Vichy, un seul sur toute la magistrature française. Et donc Annie Lacroix nous expliquera l'évolution à la fois de ceux qui majoritairement collaborent, je parle de la classe dirigeante, et de ceux minoritaires dans les débuts qui refusent de collaborer avec les nazis. C'est un personnage respectable et intéressant qui poursuivra sa carrière après modestement d'ailleurs jusqu'à l'âge de sa retraite. Mais donc écoutez demain le portrait donc, de la France non collaborationniste que vous dressera Annie Lacroix avec tout le savoir qu'elle a sur cette période particulière de l'histoire.
C'est semblable à la résistance palestinienne.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, où il y a des gens qui se battent. Hein. D'accord, là, on a les militants. Et comme c'était le cas des militants communistes et des autres résistants qui n'étaient pas communistes, hein, les FTP, les MOI, on en a parlé à propos de l'implantation, de l'arrivée au Panthéon de qui vous savez. Bon, et donc, on avait aussi dans la bourgeoisie des gens comme l'historien Marc Bloch, des gens comme Raymond Brugère, des gens comme ce magistrat qui a refusé, qui, très très minoritaire, disait « Mais moi, je ne veux pas que mon pays soit soumis au régime nazi », parce qu'ils savaient ce que c'était. Ils n'avaient peut-être pas lu Mein Kampf dans le texte, mais ils connaissaient la doctrine nazie, la doctrine raciste et exterminationniste des nazis, et ils n'en voulaient pas. Et ça, et donc, ils étaient très très peu nombreux le 18 juin 1941. Raymond Brugère, il démissionne le 17 juin 1940 au soir parce qu'il a compris ce qui allait se passer. Bon. Donc ce sera l'occasion pour vous de revivre cet épisode-là pas brillant de l'histoire de France qui a certains échos dans la situation actuelle car l'espèce de tolérance par rapport au parti que le Rassemblement national, l'espèce de tolérance de la part du pouvoir en place, je veux dire l'Élysée et le gouvernement, je ne sais pas lesquels d'ailleurs, est-ce que la France a un gouvernement aujourd'hui? C'est une question, non. Elle n'a pas de gouvernement, elle a un gouvernement démissionnaire qui est démissionnaire, et elle a un Premier ministre sans gouvernement. On est dans une période vague, creuse, indéterminée, qui est très très dangereuse parce que la démocratie là ne s'exerce pas. Hein, parce que qui va parler au nom de la démocratie, on ne sait pas. Hein, on sait pas. Mais non, c'est vrai. Les parlementaires, on leur dit restez chez vous. Hein, on leur dit peut-être vous verrez passer un certain Barnier au 1er octobre ou au 2 octobre à l'Assemblée nationale, mais il n'en a même pas fait la promesse. C'est tout à fait possible. Il y a une session parlementaire probable, etc. Non, il n'y a pas de pouvoir officiellement installé à la tête de la République française. C'est une période dangereuse où un peu n'importe quoi peut arriver, y compris des décisions folles, dangereuses de la part du président de la République qui préside en fait sans en avoir les ressources et l'autorité. Bon. Je ne m'arrête pas là-dessus, on aura l'occasion d'en reparler. Dernière chose concernant un peu la France indirectement, il s'est tenu ces derniers jours un congrès du FLNKS, donc de Front de Libération Nationale Kanak Socialiste, dans le nord donc, de l'île, qui a renouvelé son instance dirigeante, mais qui a été l'occasion, un peu regrettable, mais on le voyait venir, de montrer que l'ensemble des indépendantistes n'étaient pas en accord sur tout le programme. C'est-à-dire qu'il y a une frange plus radicale qui s'est occupée de mettre en place les barrages au moment de l'annonce donc de la nouvelle organisation des votes sur la Nouvelle-Calédonie. Et puis d'autres groupes, donc le PALICA et l'Union calédonienne, qui étaient un peu opposés à ces contrôles-là, qui étaient destinés surtout à éviter les affrontements entre les jeunes Kanaks et la police et l'armée française qui est sur place. Et donc ce congrès a réélu à sa tête donc une nouvelle direction du FNKS qui ne représente pas tout le mouvement indépendantiste. Bon. C'est le résultat de cette espèce de situation ambiguë où on ne sait pas ce qui va se passer à suivre. On ne sait pas d'abord quel sera le ministre, mais il y en aura un finalement un jour. Je ne sais pas si c'est à Pâques ou à la Trinité ou à un autre moment, mais il y aura bien... Si le gouvernement Barnier est accepté, au moins passivement, par l'Assemblée nationale, il y aura bien un ministre en charge des questions coloniales. Monsieur Barnier, je rappelle, a été quand même lui aussi ministre des Affaires étrangères. Donc oui. C'est un sujet dont il n'ignore rien. Et il faudra bien qu'on clarifie la question de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, en sachant qu'effectivement, la majorité de la population a quand même porté à l'Assemblée nationale un député indépendantiste qui est le fils de Jean-Marie Tshibaou, qui s'appelle Étienne Tshibaou, et qui pourrait peut-être parler à l'Assemblée nationale si l'Assemblée se réunissait. Alors, pour la première fois de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, on a un député indépendantiste et de poids, en ce sens qu'il porte tout le message de son père, et pour l'instant, ben, il ne peut pas parler parce que, de toute façon, l'Assemblée ne se réunit pas. Donc ça en dit long aussi sur la façon dont la politique française se met. Bon. Espérons quand même qu'ils vont avancer. Et ils ont mis à la tête du FLNKS un monsieur qui est prisonnier dans la prison de Mulhouse, hein, pour symboliquement dire que ce monsieur prisonnier politique à l'évidence, qu'on a écarté de son territoire, est le président du FLNKS en titre. Hein. Et il demande évidemment qu'il soit rapatrié dans le pays, puisqu'il n'a pas à être exilé, il est exilé, surtout quand on est indépendantiste et qu'on est en prison en France, on est exilé. C'est vrai, on ne peut pas dire autre chose. On ne se considère pas comme citoyen français. Bien, autre petite chose, un petit mot, je vous avais fait part de mes inquiétudes sur la situation en Colombie, à la suite d'une interview étrange du président colombien, M. Gustavo Petro, qui savait plus trop s'il pouvait avancer, reculer, quoi faire. Il semblait partagé entre des options contradictoires, douter de sa politique. Il savait qu'il manquait de soutien parlementaire. Son groupe parlementaire est minoritaire à l'Assemblée. Il a de la peine à faire passer des réformes. Et il lui arrive, enfin, il risque de lui arriver, et je reparle indirectement du 11 septembre, ce qui est arrivé à un certain Pinochet. Non, à un certain Allende, pardon. Hein, parce que ce qui se passe depuis quelques jours, c'est que c'est les transporteurs, les camionneurs colombiens qui sont en grève. Alors rappelez-vous que les camionneurs chiliens ont été de ceux qui ont contribué à la chute de Salvador Allende en coupant l'économie, puisqu'il y avait très peu de voies ferrées dans le système. Donc dès l'instant où vous arrêtez pendant 2, 3, 4 jours, 8 jours la totalité des transports routiers dans le pays crève de faim. Et donc, M. Petro se trouve face... Alors, pour l'instant, il ne semble pas trop s'en émouvoir, mais moi, je serais à sa place, si je pouvais l'être. Je me dirais, attention, une grève de camionneurs montée par les patrons. Alors, il a quand même dit à le début, mais c'est une grève de patrons, ce n'est pas une grève, hein, c'est un blocus politique. Hein. Ça peut très, très mal se terminer, parce que c'est destiné à faire révolter la population contre Petro. La population qui va voir les magasins vides, pas de légumes dans les, pas de boulangerie, etc. C'est ça qui se joue. Donc M. Petro est sur un fil pour l'instant. Et on retrouve là, alors c'est triste à dire, hein, on est un certain nombre d'années après le 11 septembre 1973, mais les techniques de renversement de gouvernement ne changent pas. C'est exactement les mêmes dans des conditions politiques un petit peu différentes, mais à peine. Et donc j'ai des inquiétudes sur l'avenir de M. Petro et l'avenir de ça, et surtout sa capacité à continuer à mener des réformes et à sortir la Colombie du régime donc, de terrorisme interne qu'elle avait vu sévir. avec la complicité israélienne et sioniste très très importante.
En Amérique, là, le Venezuela aussi a un petit problème.
Voilà. Pas si alors, avez... Venezuela, ça commence à aller mieux.
Parce que le chef de l'opposition, il est en Espagne actuellement.
Voilà, c'est ça.
Oui.
Voilà. Alors, le chef de l'opposition, celui qu'on nous avait dit, enfin, on nous avait dit, les médias occidentaux avaient dit, soit c'était lui qui avait gagné les élections, il n'avait rien gagné du tout, hein, puisqu'il y avait 10 points d'écart entre lui et Maduro. Mais on nous avait fait croire que c'était lui le vainqueur. Ce n'était pas vrai. Les résultats ont été confirmés par la justice vénézuélienne. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, il a perdu. Et maintenant, comme il ne sait pas trop quoi faire, il s'en va en Espagne. Et l'Espagne va l'accueillir. L'Espagne qui accueille d'ailleurs beaucoup, beaucoup de réfugiés latino-américains, parce que quand on est dans des pays comme l'Équateur, le Venezuela, la Colombie, sans compter le Brésil et tout, qui, bien que n'étant pas hispanophone, quand même on se comprend assez facilement, ou quand on habite en Argentine et qu'on a un pays qui est mené par un fou furieux, effectivement, l'issue classique, c'est de venir se réfugier en Espagne. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de réfugiés latino-américains en Espagne. Il fait partie du nombre. Maintenant, s'il est poursuivi, alors ce qui sera intéressant, s'il est poursuivi par le gouvernement vénézuélien pour les délits qu'il a commis, disons, on va voir, ça sera très intéressant de savoir si le gouvernement espagnol accepte de l'extrader. À suivre. Voilà ce que je voulais dire pour ces sujets-là. Et puis, je vais aborder un sujet alors, sur lequel j'étais déjà venu la semaine dernière, mais vous allez voir que ça a une profondeur historique sur laquelle on ne s'était pas arrêté. Je ne m'étais pas arrêté. Vous savez donc que le président russe, avant d'aller au sommet sur l'économie dans l'est de la Russie, donc à Vladivostok, qui se tient régulièrement maintenant, a fait une escale d'abord dans une des républiques russes voisine de la Mongolie, la république de Touva, où on est majoritairement bouddhiste et où on parle un peu une langue proche du mongol. Et puis, Il s'est arrêté en Mongolie et ça a donné lieu à deux commentaires, mais surtout un principal. Et ce n'est pas celui-là qui l'est le plus. Alors, le principal, il l'est parce qu'il est d'actualité. C'est-à-dire que, bien que la Mongolie ait adhéré au statut de Rome, donc qu'elle soit partie prenante dans la Cour pénale internationale, tout le monde a pu constater que le président mongol a accueilli le président russe en fanfare avec tous les honneurs dus à son rang, un accueil quasiment triomphal sur la piste de l'aéroport de Oulan-Bator, et que donc le président mongolien n'a pas passé les menottes à M. Vladimir Poutine à la demande de la CPI.
Voilà. Il fallait rappeler qu'il y avait un mandat d'arrêt de la CPI.
Voilà, c'était ça. Et donc, ça a fait écho parce que, d'une part, on a dit, mais alors, ce président mongol, mais il est culotté. Et puis, ça a fait écho dans beaucoup de pays d'Afrique où on a dit, mais après tout, alors, nous, on a peut-être eu tort d'avoir peur de la CPI. Alors, c'est vrai que les Africains sont à vif sur la question de la CPI parce qu'ils ont pu conclure assez rapidement, mais rien ne permet d'aller dans l'autre sens, que la CPI était surtout destinée à faire du mal à des dirigeants africains et à intervenir dans des conflits africains plutôt qu'ailleurs. Et ça, effectivement, si on voit la liste des inculpés, des procès qu'il y a eu à la CPI, c'est très, très majoritairement des dirigeants, des leaders africains qui sont visés. Et donc la CPI faisait peur à juste titre, puisqu'on ne savait pas sur qui elle allait tomber, mais que 9 fois sur 10, elle tombait sur un dirigeant africain. Et donc la leçon que donne la Mongolie, c'est de dire aux pays africains, vous voyez, vous avez eu peur un peu de cette CPI parce qu'elle mettait beaucoup le nez dans vos affaires, mais regardez, nous, on a accueilli le président Poutine et il ne nous arrivera rien. Alors la suite le dira, mais effectivement, très probablement, il ne leur arrivera rien. Donc là, on a tourné la page. Vous vous souvenez qu'au moment du sommet des BRICS de 2023, il avait été dit que Vladimir Poutine avait peur d'aller en Afrique du Sud parce qu'il craignait, on craignait pas lui. Là, lui, il n'a jamais dit qu'il craignait, mais il a dit, il est prudent que j'y aille pas, ou il ne l'a pas dit, il a envoyé Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, il n'y est pas allé. Et donc, beaucoup de pays africains ont dit, regardez, hein, Poutine a peur de la CPI. Bon, là, maintenant, la preuve est faite, il n'a pas peur de la CPI. Dès l'instant où un chef d'État, solide sur ses bases, dit « moi, j'ai pas peur non plus ». C'est ce qu'a fait le président mongolien. Ça, c'est tout à fait notable. Donc, chapeau au président mongolien. Alors, situons maintenant le rapport entre la Mongolie et la Russie. Parce que ça va bien au-delà de ce phénomène, de cet événement tout à fait récent. Les rapports entre la Mongolie et la Russie sont de très anciens rapports. Il faut savoir que la Mongolie, alors je ne vais pas remonter jusqu'à Genghis Khan, ça nous ferait aller beaucoup trop loin, mais la Mongolie au XXe siècle va devenir, alors pas tout de suite, mais après donc, l'arrivée des bolcheviks au pouvoir, progressivement, il va s'installer en Mongolie une république socialiste, adhérente à l'Internationale communiste, et donc qui sera effectivement une alliée permanente de l'URSS. Ah, oui. Et avec laquelle les liens sont étroits, et sont d'autant plus étroits que la Mongolie et l'URSS ont 4000 km de frontières communes. Alors, c'est facile de s'entendre là-dessus. Alors, la Mongolie, vaste, mais très peu peuplée, il y a aujourd'hui 3,5 millions de Mongols en tout. Beaucoup, c'est très, c'est très peu. Il y en avait beaucoup moins, d'ailleurs, dans les années du XXe siècle. On était en dessous d'un million. Bon. Donc, pays petit par la population, très très vaste, et puis fidèle politiquement à l'URSS. Ça dure jusqu'en 91, et au moment où l'URSS disparaît, la Mongolie se trouve un peu livrée elle-même, comme tous les autres pays d'Asie centrale et tout. Et elle va passer par une période de flottement où elle dit bon, on va se mettre un peu au goût du jour, alors on va élire un parlement, parce qu'il y avait un parti communiste qui dirigeait la Mongolie, on va élire un président au suffrage universel, on va, voilà, on se met un peu à la mode. Et se mettre à la mode, ça veut dire laisser accéder au pouvoir des forces qui n'étaient pas celles du parti communiste de l'ancienne période.
Pas si ils sont musulmans, là, mongolistes.
Majoritairement bouddhistes. Majoritairement bouddhistes.
Ah, voilà.
Voilà. Une majorité des 3,5 millions sont bouddhistes et un autre million est athée, donc marqué très, très profondément par l'expérience socialiste soviétique. Ouais. Mais pas, et très très peu. Alors, quelques minorités de chrétiens, de musulmans, très très peu. Hein. Je crois qu'il y a 1,5 million de bouddhistes sur les 3 millions. Et le bouddhisme est encore vivant. Il y a des églises, il y a des temples, etc. Ouais. Bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, cette Mongolie un peu mise au goût du jour de la désoviétisation et tout, va donner naissance à des partis qu'on appelle démocratiques, qui vont exercer le pouvoir pendant un certain nombre d'années. Et le parti, donc, qui était le parti communiste de l'époque, va renaître sous la forme d'un parti qui s'appelle le Parti socialiste de Mongolie, à la tête duquel se trouve l'actuel président de la République mongole. Et donc, en fait, il vient bien de ce courant de gauche ex-communiste des partis mongols nouvellement fabriqués. Ce qui explique la facilité des rapports avec la Russie, comme ils avaient avec l'URSS. Et donc, voilà le contexte du rapport entre ces deux pays. Donc, ce pays très petit démographiquement, avec de grosses richesses naturelles, mais qu'il a de la peine à exploiter parce qu'ils sont tellement peu nombreux qu'ils ont besoin d'investisseurs étrangers, qui se précipitent d'ailleurs. Mais en fait, ce pays a quand même pas tout à fait 4000 km de frontières communes avec la Russie et un peu plus avec la Chine. Oui. Donc effectivement, il a à droite et à gauche, ou plutôt au nord et au sud, deux voisins qui pèsent tellement lourd et qui d'ailleurs monopolisent carrément quasi tout son commerce extérieur. Hein. La Mongolie, avec deux voisins pareils, ne va pas se mettre à acheter du minerai de fer au Brésil ou je ne sais quoi en Afrique. Hein. Bon. Donc, c'est ça la réalité économique. Ce qui n'avait pas empêché M. Macron, il y a de ça 2 ans, je crois, d'y faire un saut pour dire « Ah, je vous achèterai bien un peu d'uranium ». Mais acheter de l'uranium, ça supposait faire une mine, l'exploiter, mettre des capitaux et tout. Je ne sais pas si le projet a une suite. Et donc voilà ce pays qui se situe bien donc, dans cet environnement sino-russe et qui a, j'allais dire, je vais simplifier, ça va faire de la peine à ceux qui connaissent l'histoire, une espèce de crainte vis-à-vis de la Chine. Il préfère le rapport avec la Russie à cause du passé soviétique commun. Je rappelle que quand la Mongolie devient une république populaire, la Chine n'est pas encore à l'ère de Mao. Hein. C'était en 49, donc. Il y a tout un temps où c'est la Russie qui est l'allié et c'est l'Internationale communiste où la Chine n'est pas. Bon. Ça, c'est une première raison. C'est-à-dire que le voisinage politique avec la Russie, avec l'URSS, a duré plus longtemps qu'avec la Chine populaire. Première raison. Deuxièmement, les rapports entre les Mongols et les Chinois sont des rapports compliqués. Les Mongols sont peu nombreux, mais ils ont quand même réussi, aux alentours de 1100-1200, donc il y a un certain nombre de siècles, à conquérir la monarchie, enfin prendre la direction de la Chine. Alors ils l'ont fait, ils sont arrivés en tant que Mongols, c'est-à-dire à cheval et tout, comme ils faisaient du temps de Genghis Khan, et puis ils ont pris Pékin et ils sont installés, ils ont pris le pouvoir. Mais ils ont pris le pouvoir à quelques-uns. Et donc il est resté une majorité de Chinois qui n'étaient pas Mongols, qui ont vécu sous la dynastie mongole. Alors les Chinois, ça leur a pas laissé un très très bon souvenir, et les Mongols, ils ont vu que c'était pas facile, puisque d'abord, après, au bout d'un siècle, c'est une dynastie chinoise, la dynastie... dynastie des Ming, qui a mis la dynastie mongole à la porte. Bon. Donc il y a un passé plus compliqué qu'avec la Russie et l'URSS.
Ils ont été jusqu'au Moyen-Orient. Hein.
Ah oui, alors oui, un mot sur Genghis Khan. Oui, Genghis Khan est allé, alors, au Moyen-Orient, puisqu'il a pris Bagdad, ne serait-ce que ça. Ouais, il est allé
jusqu'en Syrie.
En Syrie, il est allé jusqu'en Hongrie. Hein, c'est le point le plus à l'ouest où il soit allé.
Voilà.
Et il avait réussi à faire fonctionner un gouvernement nomade. C'est-à-dire, il circulait, mais finalement, on lui obéissait depuis la Mongolie jusqu'à la Hongrie. Alors les méthodes n'étaient pas des méthodes souples, mais de fait c'était un pouvoir très très organisé qui a réussi à tenir à cheval le pouvoir, sans avoir de capitale fixe, sans avoir des palais. Hein. Le palais était à cheval. C'est ça qu'on a mal compris. Enfin, c'est très difficile d'analyser puisque ça paraissait impossible que quelqu'un qui installe pas une capitale avec des palais, avec des ambassadeurs, de l'or, etc., puisse gouverner. Et en fait, ça a quand même tenu plus d'un siècle.
Ah, en Syrie, on a une population d'ailleurs
ça se voit sur le visage. Oui, ouais. Oui. Alors après, bon, Genghis Khan a eu plusieurs fils, 4 je crois, qui se sont partagés les morceaux. Donc il y a eu des dynasties successives qui ont continué à régner pendant encore au moins 2 siècles sur tout cet espace. C'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, à Kiev, c'était un Mongol qui gouvernait. L'Ukraine n'existait pas à l'époque. Ouais. C'est des choses comme ça, hein, le long de la Volga aussi.
Bon. Avec une petite population, c'est ça qui...
Oui, c'est ça qui est assez étonnant. Donc gouverner à cheval en étant fixe nulle part. Et ça, c'est seuls les Mongols dans l'histoire de l'humanité ont réussi ce paradoxe. Donc, très brièvement, parce que ce serait toute une histoire, et elle dure quasiment un millénaire, ça, toute une histoire pour expliquer que les rapports entre les Mongols et les Chinois sont des rapports un peu compliqués. Ils le sont d'autant plus que quand on est 3,5 millions et qu'on a juste en dessous 1,4 milliard d'habitants, et que chaque fois qu'il y a un marché et des commerçants à Oulan-Bator, il y en a les trois quarts qui sont chinois, on a facilement et vite le sentiment d'être un peu envahi. Bon. Et comment faire dans ce rapport de nombre qui est écrasant? Avec les Russes, ce n'est pas du tout le cas. Les Russes ne sont pas très nombreux, ils sont dispersés sur leur immense espace, et donc le Mongol n'est pas inquiet du voisinage avec la Russie, comme il peut l'être au fond de lui-même du voisinage avec la Chine, fut-elle populaire et amie. Les relations sont bonnes maintenant entre les deux pays, mais le Mongol de base, il dit quand même, ils sont bien nombreux, on a eu des difficultés ensemble, etc. Bon. Et donc la fidélité de la Mongolie à la Russie s'est trouvée confirmée donc, par la visite de Poutine et par l'accueil qui lui a été fait. Mais ça a été l'occasion, et c'est là-dessus que je voulais arriver, de rappeler un morceau d'histoire commune qui est extrêmement intéressant pour l'histoire du monde et de la Deuxième Guerre mondiale. Souvenez-vous, ou je vous rappelle, qu'en 1931, le Japon, qui est un impérialiste qui est en concurrence avec les autres impérialistes, britanniques, américains, allemands, français, etc., décide d'envahir la partie nord de la Chine, où il y a des mines de charbon, des mines de fer, des industries, donc la Mandchourie chinoise, et il crée un état fantoche. Alors il dit que c'est un état séparé, en fait c'est une province japonaise qu'on appelle le Manchukuo. Donc à partir de 1931, le Japon a posé les pieds là, juste à côté de la Mongolie, juste derrière à l'est de la Mongolie, sur des territoires où la Russie, l'URSS est toute proche, et de l'autre côté il y a la Chine, que le Japon va envahir à partir de 1937.
Ah ouais.
Donc la Mongolie se trouve avec une URSS assez lointaine qui n'est pas très très impliquée dans ce qui se passe à cet endroit-là du monde, un Japon qui devient gourmand, qui est là, qui a des troupes très très importantes. La meilleure armée japonaise, c'est l'armée du Manchukuo. et qui est en train de grignoter la Chine progressivement. Alors, il grignotera pas tout, mais quand en gros, en 1937, l'armée japonaise rentre en Chine, elle prend très très vite Pékin, elle prend Nankin, l'ancienne capitale, et elle prend en gros toute la bordure est du territoire, la bordure côtière la plus riche de la Chine. Elle n'arrivera pas à prendre le reste, et donc ça se terminera en 49 par la victoire des communistes chinois. Et donc la Mongolie est d'un endroit extrêmement... Elle se trouve extrêmement fragile à ce moment-là. Et la Mongolie fait partie des ennemis du Japon, puisque en 1936, j'explique, en 1936, l'empereur du Japon et Adolf Hitler signent un pacte qu'on appelle le pacte anti-Comintern, ça veut dire un pacte anti-communiste. Et donc le jour où Hitler et l'empereur Hirohito signent ce pacte anticommuniste, ça veut dire que cette Mongolie, la toute petite, juste au bord du Mandchoukouo, est un ennemi. De ce jour-là, c'est une forme, on va être en guerre avec vous, de toute façon, vous êtes notre ennemi, donc on vous veut du mal. Bon. On est en 36. Comme en 37, donc, l'armée japonaise rentre en Chine, ça confirme bien leur hostilité, et la Russie commence un peu à se préoccuper, parce qu'elle sait que c'est très très loin, elle sait qu'elle n'a pas beaucoup d'hommes sur place, etc. Et ce qui va se passer, c'est que le Japon va petit à petit multiplier les incidents de frontières, en prenant prétexte que la frontière n'est pas bien tracée entre la Mongolie et la Mandchourie chinoise, japonaise, etc. Ça se passe dans les années 37-38. En 38, il y a déjà un affrontement important, entre les deux armées, donc entre l'armée russe qui est venue défendre la Mongolie, parce qu'ils sont alliés, et l'armée japonaise du Mandchoukouo, qui tourne un peu à l'avantage des Russes, des soviétiques, on va dire, de l'époque, mais qui est une bataille de petite grandeur qui met en cause quelques centaines de combattants. Ça, c'est 38. Mais on a déjà compris que les ambitions japonaises étaient là et que les ambitions japonaises étaient très claires. Il s'agissait, en grignotant le territoire mongol et surtout le territoire soviétique, de progresser à l'intérieur du territoire soviétique et de s'approprier les énormes richesses naturelles de ce territoire soviétique. Je veux parler pétrole, minerai. Alors on sait que la Russie, l'URSS, suscite la convoitise de tous les autres empires impérialistes pour les richesses qu'elle... Et le Japon, étant lui extrêmement pauvre en matière de ressources naturelles, n'avait comme ambition... Il avait déjà pris la Mandchourie chinoise et puis il voulait prendre le reste. Bon, ça, pour vue de Moscou, l'affaire était tout à fait claire. On comprenait ses ambitions-là. Et donc là, la première bataille, donc celle qui a lieu en 1938, donne la victoire aux Russes, mais c'est une petite bataille, c'est un test dont les Soviétiques sortent vainqueurs. Ceci étant, les événements vont se précipiter parce qu'il se passe du côté ouest maintenant. Alors pour l'URSS de l'époque, il y a deux guerres. Ce Japon-là qui veut manger l'URSS par l'est et puis les Hitlériens qui veulent le manger par l'ouest. C'est tellement vrai que le pacte anti-Comintern, donc le pacte Hitler-Hirohito, mettait à jour cette ambition commune. On prendra l'URSS, chacun grignotera une partie est pour les Japonais, une partie ouest pour les Hitlériens. Et donc ça, c'est compris assez vite à Moscou. Et donc Moscou se dit, là, il faut que j'intervienne. Et Moscou profite d'une période d'incertitude dans la position des Occidentaux qui va déboucher sur les accords de Munich. Moscou, un certain temps, va croire que la France et la Grande-Bretagne ne laisseront pas Hitler attaquer et ne laisseront pas Hitler s'agrandir. Alors il a déjà pris l'Autriche, mais ne laisseront pas prendre la Tchécoslovaquie. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont à Munich, ils laissent Hitler faire, et Hitler va prendre la Tchécoslovaquie. Et donc à ce moment-là, Moscou comprend qu'il faut aller très très vite, parce que maintenant que la France et la Grande-Bretagne ont déposé à terre leurs armes, on dit on ne se battra pas, puisqu'on les laisse faire, dans la mesure où ils ont dit qu'ils ne viendraient pas chez nous, la preuve sera administrée un peu plus tard. Bon, donc à Moscou, c'est l'alerte, et à ce moment-là, Staline dit il faut absolument se préparer à la future guerre qui nous sera menée par le Japon, en attendant qu'Hitler nous envahisse, parce qu'il n'y a pas d'illusion là-dessus. Alors, côté invasion hitlérienne, ils prennent une précaution qui a été longtemps brocardée, on a montré que ce n'était pas sérieux, qui consiste à faire signer par Molotov et par Ribbentrop, les deux ministres des Affaires étrangères, un pacte de non-agression, c'est-à-dire ça donne à la Russie, à l'URSS, les deux années dont elle a besoin pour continuer ses programmes d'armement, pour se préparer au choc qui n'aura lieu qu'en 1941.
Est-ce que le Japon, à cette époque, il y avait l'histoire des îles?
Oui, il y avait déjà des conflits sur Sakhaline qui était coupé en deux, les Kouriles, etc. Oui, tout à fait. Il y avait déjà un contentieux qui remontait aux premières interventions donc, du Japon impérialiste contre l'Empire tsariste. Ce n'était pas contre l'URSS, mais contre l'Empire tsariste. Il y avait déjà ce vieux contentieux. Donc ce que décide Staline, c'est de dire là, il faut tout de suite intervenir pour arrêter les Japonais, parce que dans quelques semaines, malgré le pacte de non-agression, on aura droit à l'agression. Et il faudra aller de l'autre côté, et là, ce sera encore beaucoup plus sérieux comme affrontement. Bon. Et donc, il envoie un jeune général qui a 45 ans à l'époque, qui s'appelle Joukov. Et il lui dit maintenant, il faut pas se laisser manger par les Japonais. Et donc, il donne à Joukov mission de résister à l'attaque japonaise future. Et Joukov va mettre au point une guerre, comme il le fera après pour la libération de l'Allemagne du Reich, c'est-à-dire une guerre où les moyens matériels sont considérables, où la planification logistique est essentielle, où il faut beaucoup, beaucoup de matériel. Et il va y avoir une guerre là où il va se mettre à utiliser. Alors, il n'y a qu'un moyen de transport, c'est le transsibérien. Donc, il y a 4000 km de chemin de fer. Il y a une ligne de chemin de fer, enfin, deux lignes. Donc, il faut transporter des chars, des canons, du personnel, du matériel et tout, sur toute cette distance. Le stocker et l'approvisionner sur le lieu de l'affrontement, qui est à 700 ou 800 km de la dernière gare du transsibérien, c'est une opération extraordinaire. Bon, qui ne surprend pas quand on voit aujourd'hui la façon dont la Russie se débrouille sur le terrain en Ukraine. C'est-à-dire logistique essentielle, gros moyens matériels et un énorme engagement matériel. Alors je vous donne des ordres de grandeur parce que ça va donner lieu à une bataille qui se passe le long d'une rivière qui est frontalière en gros entre donc, le Japon, le Mandchoukouo et la Mongolie, qui s'appelle la bataille de Khalkhin-Gol. Je vous donne le nom. Bon. Cette bataille va mettre en jeu en gros 57 000 soldats russes, soviétiques, et à peu près autant de soldats japonais. Une énorme bataille, on n'est pas du tout aux quelques centaines de la bataille précédente en 1938. Ça va impliquer, alors je vous donne des chiffres parce que c'est intéressant, on n'en parle jamais, ça va impliquer des tanks du côté soviétique, autour de 500 tanks. 500 tanks, la guerre n'est pas commencée. Les véhicules blindés de petite catégorie 400, 900 avions de guerre. Alors que le Japon met en face beaucoup moins, finalement, 73 tanks, 19 véhicules blindés et 400 appareils, 400 vols.
Écrasé.
Bon. Les pièces d'artillerie sont de l'ordre de 600 côté soviétique et 300 côté japonais. Les camions, donc pour assurer le transport de tout ce matériel, sont de l'ordre de 4000 côté soviétique, 1000 du côté japonais. Les chevaux, alors il y a plus de chevaux côté japonais, parce qu'ils vont servir aussi par des assauts. Enfin, peu importe, énorme. C'est la plus grosse bataille de la Deuxième Guerre mondiale. Alors pour nous, la Deuxième Guerre mondiale n'est pas commencée. En fait, là, elle est commencée. Elle est commencée, puisqu'elle est commencée en Chine, puisque le Japon est rentré en Chine en 1937. Bon, donc la guerre mondiale, elle est bien commencée. Et c'est la plus grosse bataille de cette période-là de la guerre mondiale. Les Russes, les Soviétiques gagnent, ils écrasent l'armée japonaise, qui va laisser beaucoup, beaucoup de monde au sol. La position doctrinale et philosophique des Japonais, c'est de ne pas se laisser faire prisonnier. Donc, s'ils se font rattraper, ils se suicident, harakiri. Et donc, c'est comme ça que ça se termine. Donc, énorme carnage côté japonais. Et pour le Japon, c'est une défaite magistrale. Et c'est une victoire remarquable pour l'armée soviétique, qui a mis en place un système qui va être utilisé pour reconquérir tout son territoire et arriver jusqu'à Berlin avec les mêmes méthodes. Énorme quantité de matériel, énorme quantité de tanks, énorme quantité d'avions, énorme quantité de chars, énorme quantité d'artillerie. Bon. Donc c'est la méthode Joukov qui va s'imposer comme étant la méthode victorieuse pour finir la Deuxième Guerre mondiale côté hitlérien. La conséquence, ce n'est pas simplement une défaite du Japon. C'est une défaite magistrale de l'armée de terre japonaise. Et je vous avais dit que l'armée du Manchukuo était la plus forte armée du Japon à l'époque. Et il se trouve qu'il y avait au Japon deux doctrines militaires qui s'affrontaient. Une doctrine de l'armée de terre, disant on prend l'URSS et on prend toutes les ressources soviétiques à notre compte. Et l'autre doctrine, qui était celle de la marine japonaise, qui consistait à dire non, les Occidentaux sont affaiblis, on va aller passer par la voie maritime du Pacifique et on va prendre toutes les colonies des Anglais, des Français, sont sur le parcours. Et en fait, la défaite de Calquingon va donner donc l'avantage à la théorie de la marine, et donc le Japon va décider de ne plus attaquer l'URSS. Il y aura un accord d'armistice qui sera signé après la défaite de Calquingon, et c'est ça qui va permettre de faire Pearl Harbor et la campagne du Pacifique. C'est-à-dire, c'est la doctrine stratégique de la marine japonaise qui s'impose, défaite assumée sur le terrain soviétique, qui s'impose comme la façon dont le Japon va conquérir le monde. Bon, on sait comment ça va se terminer, les États-Unis sont impliqués, se défendent, etc. Mais cette bataille, donc le fait que l'URSS, avec Staline et Joukov, qui ont bien compris la situation, qui réussissent à bloquer les ambitions, non seulement l'offensive, mais toute ambition japonaise sur le territoire soviétique, est un tournant, puisque le Japon n'attaquera pas du tout, à aucun moment le Japon n'attaquera l'URSS pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un changement complet de panorama qui se passe à ce moment-là, au moment tout de suite après les conséquences de cette victoire soviétique à Calquingon. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette visite de Poutine en Mongolie? Eh bien, il est allé, pas sur la tombe de Joukov, mais déposer des fleurs au pied de la statue de Joukov qui trône dans la capitale mongole. Ouais. Parce que les Mongols se souviennent qu'effectivement, eux ont échappé aussi à l'invasion japonaise et au traitement très très violent que les Japonais leur ont infligé. On sait que les Japonais, l'armée impériale japonaise, a été d'une férocité avec les populations des pays qu'elle a occupés, qui n'a rien à envier à celle des nazis. Et donc les Mongols savent très bien à quoi ils ont échappé. C'est pour ça que la statue de Joukov n'a jamais été enlevée de Ulan-Bator. Et c'est pour ça que Poutine est allé mettre des fleurs sur le monument du maréchal Joukov. Voilà, je voulais resituer ça, parce que c'est un épisode de la Deuxième Guerre mondiale qui est peu connu. Alors, je signale en plus qu'il y a eu deux livres qui ont été faits sur cette bataille de Calquingon, qui n'ont pas été traduits en français, et que si vous regardez, alors je me suis payé le luxe d'aller regarder les présentations Wikipédia et autres, le grand public de cette période-là de l'histoire, à cet endroit-là du monde, c'est totalement trafiqué. C'est totalement fou. Il n'y a rien qui... Il n'y a rien d'expliqué correctement. Il n'y a rien d'expliqué correctement. La seule chose qu'on peut retenir, c'est qu'il y a un général russe, un général soviétique qui a trahi, et donc qui est passé côté japonais, il s'appelait Liushkov, et qui a dit, je le situe parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai, et qui est allé dire à l'armée japonaise, vous savez, en ce moment, on est en 38, donc après les premiers accrochages, en ce moment, Staline est en train d'épurer l'armée, il a mis tellement d'officiers nuls à la tête de l'armée soviétique que vous pouvez y aller, ça va passer comme dans du beurre. Et les Japonais le croient. Et quand il tombe sur l'os Joukov, ben c'est trop tard. L'os est là. Et donc, les Japonais ont été trompés. Il était sincère, mais comme il s'était vendu à leurs intérêts et qu'il détestait Staline, bon, les Japonais l'ont cru. Bon, tant pis pour eux. Leur renseignement, ça fait aussi partie de la guerre, y compris les fausses informations. Voilà. Je pensais que ça valait la peine qu'on en parle pour bien situer cet événement-là. Et je vous dis, alors c'est très très mal expliqué, ou pas expliqué du
tout.
Cherchez ce mot Calquingon, ça s'écrit K-H-A-L-K-I-N-G-O-L, vous le trouverez presque nulle part. Non, on le trouve sur des sites britanniques, sur des sites américains plus, mais ici, non, ça n'a pas existé quasiment. Or ça a tellement existé, je dis que ça a été un tournant de la Deuxième Guerre mondiale, qu'elle n'aurait pas eu ce visage s'il n'y avait pas eu l'opération du Pacifique et la guerre du Pacifique. Donc là, on a beaucoup parlé, parce que là, quand les Américains font la guerre, ils font aussi du cinéma sur la guerre.
Beaucoup de médias.
Voilà, beaucoup de médias. Bien. Dernière chose, puisque je ne suis pas loin du sujet, quelques mots sur le sommet Chine-Afrique. Le sommet Chine-Afrique, qui s'est donc tenu la semaine dernière à Pékin, a réuni, alors vous savez qu'en Afrique, il y a 54 États.
Ouais.
Alors, ce sommet a réuni 53 États d'Afrique, plus l'Union africaine, et il n'en manquait qu'un. Alors, qui c'est qui manquait ? Alors, c'est un État tout petit qui s'appelle maintenant le Eswatini, qui est l'ancien Swaziland, qui, lui, a reconnu Taïwan. Et donc, pour les Chinois, c'est un cas de non-reconnaissance. Oh. Vous avez bon, il paye, ça n'a pas de poids, mais enfin, voilà. Puisque vous êtes amis avec Taïwan, ben vous n'êtes pas amis avec nous, donc vous n'êtes pas invités. Mais autrement, tous les pays d'Afrique étaient là. Certains étaient représentés par leur chef d'État, d'autres par leur premier ministre, d'autres par des ministres des Affaires étrangères. Mais il y avait 53 États sur 54 d'Afrique qui étaient là au sommet Chine-Afrique.
Oui. Le Swaziland, c'est, enfin, l'Eswatini, c'est un royaume. Hein.
C'est un royaume.
Oui, oui.
Ouais. Ah oui.
Oui, oui. Bon, tout petit, enfin, c'est un morceau.
Ah, mais c'est un petit...
Oui, oui, c'est bon. Mais bon, enfin, pour la forme, les Chinois n'acceptent pas que quelqu'un reconnaisse Taïwan, donc on n'en parle plus. Et donc, ce sommet a été l'occasion. Donc, d'une part, le président chinois a reçu, en tant que tel, les chefs d'État présents, les chefs d'État africains. Donc, il y en avait une bonne dizaine. Alors, je signale quand même qu'il y avait le président de Djibouti, le président des Comores, pas nos Comores à nous, les Comores indépendantes.
Ouais. Hein,
d'autres, enfin, il y avait toute une série d'autres. Le président du Togo, il y avait eu le président sénégalais qui était là.
Ouais. Hein,
donc, il y avait des gens importants. Il y avait le président de la République démocratique du Congo. Enfin, je ne les ai pas tous en tête. Donc, le président chinois, protocolairement, a eu des entretiens avec tous les chefs d'État, donc à son niveau, qui étaient là. Et puis ensuite, il y a eu des discussions avec les ministres concernés, les entreprises, les fonctionnaires.
Les présidents des pays de l'AES aussi, non ? Ils y étaient ?
Ils n'y étaient pas.
Ils n'y étaient pas ?
Ils n'y étaient pas. Pas les présidents en tant que... Les pays étaient représentés, mais pas les présidents. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite de ça, on a travaillé, ça a duré 5 jours, et que donc on a clarifié les relations entre la Chine et l'Afrique, puisqu'un sommet de ce type-là, il y en a un, depuis 2000, il y en a un tous les 3 ans, permet de faire le point sur les rapports entre les pays africains et l'Afrique en général et la Chine. Et donc c'est très intéressant parce qu'il y a toute une série de décisions qui sortent de ces rencontres-là, qui touchent à peu près tous les aspects de la vie économique et sociale des pays africains. Alors, l'idée générale, c'est la modernisation du Sud, ça, évidemment. L'idée générale, c'est que le commerce soit libre entre, dans les 53 pays, il y en a 33 qui sont encore des pays en voie de développement, très arriérés. Là, la Chine dit, aucun droit de douane, tous vos produits peuvent rentrer chez nous sans contingent, sans droit de douane, donc on ouvre la porte au commerce. L'idée d'améliorer la gouvernance, c'est-à-dire les Chinois se sont rendus compte que quelquefois, ils arrivaient dans un pays d'Afrique, et puis, à part 2-3 cadres, quelques ministres et tout, ils n'avaient pas grand monde pour discuter, pour parler sérieusement de l'état de la société, de ses besoins et tout. Donc, favoriser la mise en place de bureaux d'études, de réflexion, de travail, de connaissance de leur pays, de les aider.
Hein.
C'est très, très important. Ensuite, un aspect militaire, c'est-à-dire que ces régimes-là sont en but à des pressions des uns et des autres, peuvent éventuellement avoir des désaccords entre eux. Donc il faut qu'ils soient tous en capacité de s'assurer leur défense. Et donc il y a une formation militaire administrée par des Chinois pour 6000 personnes, un budget d'aide aux armées de ces pays-là, alors pas armée d'agression, armée de défense aussi. Et ensuite, et là il y a un changement qui est très très intéressant à noter, c'est que on a beaucoup dit, et c'était vrai pendant toute une première période des rapports entre la Chine et l'Afrique, que la Chine et les entreprises chinoises construisaient surtout des barrages, des autoroutes, des terrains d'aviation, etc. L'angle est en train de changer. L'angle est en train de changer, non pas parce que la Chine a changé, mais aussi les pays africains ont changé. Les pays africains ont maintenant à leur tête des équipes de gens qui ont un bon niveau de formation, qui abordent d'autres problèmes, qui savent que le problème de faire des routes n'est plus le problème central, et que le problème central devient celui de maîtriser les technologies de l'information, maîtriser une industrie pharmaceutique, maîtriser toute une série d'activités tertiaires plus élaborées, y compris les énergies vertes, etc. Et la Chine leur dit, mais c'est la direction qu'il faut que vous preniez, et on va vous aider dans ce domaine-là. Donc vous voyez, évolution, les grandes infrastructures, c'est pas tout fait, mais il y a beaucoup a été fait déjà en termes de chemin de fer, de terrain d'aviation et de route.
Ouais,
et maintenant, il faut passer à la formation des périodes et de l'encadrement de ces pays pour les techniques contemporaines, pour leur permettre d'échapper à l'emprise des colonisateurs. Que ce ne soit pas, comme c'est le cas ici ou là en Côte d'Ivoire, qu'il y a uniquement Orange qui est capable de faire des télécommunications sur le sol de la République de Côte d'Ivoire. Bon. Les Chinois disent qu'il faut que chacun de vous ait les capacités d'être capable, autonome dans sa politique, pour toutes ces technologies modernes, que ça concerne la santé, l'éducation, les communications. Et là, je suis là, je mets de l'argent dans la mécanique, hein, et donc on va continuer à travailler. Vous voyez, donc je m'arrête là-dessus parce que c'est intéressant de voir le changement d'orientation. On a passé une première période d'accumulation du capital avec les grands travaux immédiats qu'il fallait faire, parce que si les routes n'étaient pas goudronnées, ben le développement était évidemment impossible. Mais une fois que ça s'est fait, il faut passer à autre chose et il faut surtout permettre la formation d'une couche d'encadrement social collectif capable de maîtriser les techniques du monde moderne pour que ces pays ne soient pas grignotés par le premier Google qui passe et qui leur dira « c'est comme ça qu'il faut faire ». Bon, ça, c'est un message qui est parfaitement compris. Alors, il y a aujourd'hui, à la tête de ces pays africains, des cadres, des dirigeants, des ministres qui sont capables de comprendre ce discours et qui partagent cette analyse de la situation. Donc, on voit bien qu'il y a une compréhension commune par la Chine et par l'Afrique de ces besoins de développement de la Chine. Et ça se termine par une espèce de jeu d'égalité. Nous sommes partenaires à égalité, ils disent. Voilà, alors pourquoi,
oui, c'est vrai.
Pourquoi ils disent ça? Alors ça, c'est un espèce de clin d'œil.
Ouais.
Il y a 1,4 milliard de Chinois et il y a 1,4 milliard d'Africains. Donc ils disent, bon, on est à parité, hein, on est fait pour s'entendre. Mais ça, c'est la conclusion qui est un peu du langage de la communication. Mais ça a du sens. Simplement, il faut aussi que ces 1,4 milliard d'Africains apprennent aussi à travailler ensemble. Et que ce ne soit pas... Alors les réseaux, je reviens sur les réseaux de transport à la méthode coloniale ou néocoloniale. Le réseau de transport, en particulier des chemins de fer, c'était depuis le port d'embarquement du minerai qui a été pris par telle ou telle entreprise française ou allemande, là. Et c'était tout. C'était ça, le chemin de fer dans l'Afrique coloniale. Bon, maintenant, c'est fini. Et il faudrait effectivement qu'il y ait des possibilités de chemin de fer d'un pays à un autre, qu'on puisse passer d'un pays à un autre et pas simplement n'avoir un lien qu'avec la France et que le seul lien avec le monde extérieur soit l'avion pour Paris, comme ça a été longtemps le cas dans la colonisation, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Je peux vous dire que à la Guadeloupe ou à Port-au-Prince, à Martinique, l'actualité politique se joue dans l'avion qui arrive de Paris. Et les gens qui sont allés là-bas, à Paris, hein, dans la métropole, ils arrivent avec des nouvelles et il n'y a pas de lien avec le reste du monde.
Ouais.
Ça, il faut que ça change. Alors ça change un petit peu, mais ça a changé avec le Covid, où la France a accepté qu'il y ait des médecins cubains qui viennent à Cuba, à la Martinique.
Hein.
Mais autrement, c'est ça. C'est l'avion de Paris qui est l'espèce de cordon ombilical avec la mère patrie. Elle n'est pas la mère patrie, c'est le colonisateur et c'est fini. Voilà. Ce que je voulais
L'ancien président algérien a été reconduit,
Tebboune,
monsieur Tebboune, voilà. 94%.
Voilà les nouvelles de la semaine. Et donc, n'hésitez pas demain à écouter Annie Lacroix vous parler d'un combattant de la liberté et d'un anti-hitlérien français courageux et capable. Merci Roselyne.
Oh. Thank you.